Question ce matin sur notre ADN, cette macromolécule de son vrai nom, acide désoxyribonucléique, qui marque nos différences, notre couleur de peau, selon que l'on dort plus que d'autres, pourquoi certains supportent moins l'alcool que d'autres. C'est souvent donc une question de variation génétique. L'histoire de l'ADN et son avenir, elle est expliquée dans ce livre ADN, histoire de nos différences, paru chez Odile Jacob. Et vous en êtes l'auteur, professeur Sablonnier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, biologiste, chercheur, professeur de biologie moléculaire à la faculté de médecine de l'université de Lille. Alors si on remonte aux origines, hein, c'est le début du livre aussi, notre ADN, eh bien on le doit plus à Sapiens qu'à Néandertal. Comment ça ?
Oui, c'est-à-dire que Sapiens, c'est notre espèce actuelle, mais il y a eu des croisements avec une espèce un petit peu plus ancienne qui est Néandertal, et on possède effectivement dans notre ADN 6% de traces qui sont hérités de ces croisements entre Néandertal et Sapiens. Mais bon, on a tout ce qu'il faut pour expliquer un très grand nombre de différences. Ce message génétique, ce texte énorme qui est inscrit dans nos cellules.
C'est 3 milliards de lettres.
C'est 3 milliards de lettres. Vous imaginez, dans un gros roman, vous avez 600 000 lettres. Vous avez intérêt à avoir une grande bibliothèque si vous voulez avoir le message génétique inscrit dans des livres.
Et si on a plus de Sapiens que de Néandertal, tout simplement parce que Néandertal a disparu, alors que Sapiens, lui, a perduré encore quelques longues centaines de milliers d'années. Qu'est-ce que Sapiens a développé comme variation génétique il y a plus de 100 000 ans?
Bah beaucoup, parce que Sapiens est curieux. Au début, son habitat est africain, puis il sort probablement d'un habitat forestier, il sort dans la savane, il commence à migrer. Ensuite, vous savez, il y a probablement un peu plus de 80 000 ans, il sort de l'Afrique. Il va en Asie, il va en Europe, ensuite en Amérique. Et à chaque fois, il découvre des conditions environnementales différentes. Le climat a eu une importance considérable. Et puis après, on pourra peut-être parler un peu de l'influence des changements alimentaires au néolithique. Donc tout ça, ça a fait apparaître des changements. Il y a une lettre dans l'ensemble de ce message génétique qui change à un endroit donné, ce qu'on appelle un gène. Et ça peut entraîner une petite différence qui va se manifester par des tas de traits de nos différences entre les humains.
C'est-à-dire que le message est changé juste pour une lettre qui change.
Oui, ce sont ces variations. Par exemple, si vous comparez l'ensemble du message entre deux individus qui ne sont pas apparentés, sur les 3 milliards de lettres, vous trouverez 3 millions de différences. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire que ces 3 millions de différences expliquent quelque chose. Les chercheurs ne savent pas tout. Mais on en connaît des centaines. Et dans ce livre, j'en détaille à peu près 64 qui sont tout à fait compréhensibles, amusantes, surprenantes et parfois croustillantes.
On va découvrir ça, c'est effectivement au cœur de votre livre. Et juste pour qu'on comprenne bien, cette capacité à s'adapter à notre environnement, c'est bien ce qui détermine notre capital génétique, notre ADN. On va prendre un exemple, suivant où l'on vit, ça détermine notre rapport au sommeil pendant des générations.
Alors, oui et non. En fait, ce qui va faire apparaître un variant, c'est qu'il apparaît au hasard comme ça, parce que c'est un changement, c'est un peu comme une mutation. Ça apparaît au hasard, une lettre est changée en une autre.
Mais selon quels critères ? L'environnement ?
Alors l'environnement, évidemment. On le verra, il y a des gènes de résistance à la frilosité, à la chaleur. La couleur de peau, c'est considérable. Le mot race n'existe plus. Il y a des trentaines de nuances de différence de peau qui sont dues à un seul facteur, c'est l'ensoleillement.
Et le problème, c'est qu'à chaque fois que notre ADN se reproduit, il y a des risques d'erreur au moment de la copie. La copie de l'ADN n'est pas toujours parfaite. Avec quelles conséquences, d'ailleurs, pour l'individu ?
Oui, il y a des risques d'erreur. C'est peut-être un peu ça, le génie de l'évolution. C'est de provoquer quelques erreurs. Et s'il y en a une dont vous héritez, que vous transmettez et qui vous apporte un petit avantage, elle peut se distribuer à l'ensemble de la population. On en prendra un bel exemple avec l'arrivée des yeux bleus sur Terre.
Mais on peut corriger l'ADN, un peu.
Alors, on peut corriger. Voilà. Bon, ça, c'est de la thérapie génique. Ouais. Bon, c'est très difficile. Ça marche. Ça commence à marcher pour certaines maladies, mais de là à corriger tous les traits morphologiques de l'humain, on en est loin.
Alors, cet ADN qui est donc à l'origine de nos différences, vous en parlez de façon assez ludique hein, dans ce livre « Histoire de nos différences », professeur Sablonnière. Par exemple, vous expliquez pourquoi les roux sont plus douillés que les noirs ou les blonds, c'est-à-dire ?
Oui, c'est étonnant parce que en fait, il existe en fait une hormone, la mélanocortine, qui va jouer sur l'intensité d'un pigment dans la peau. Et le récepteur de cette hormone est sensible également à une autre hormone qui va réguler la sensibilité à la douleur. Et comme ce récepteur de la mélanocortine subit un petit changement de son message chez les roux, il entraîne deux conséquences. Ils font un pigment qui est un peu plus clair, hein, qui peut être couleur carotte, c'est les roux. Et en plus, ils ont un seuil de la douleur qui est plus faible, donc ils sont plus douillets et tous les dentistes le savent.
Et notre réaction, que les roux sont plus sensibles sous la fraise que les autres. Et notre réaction à l'alcool également, nous ne réagissons pas de la même manière. Alors moi je pensais que c'était lié à ma corpulence, plus on est épais, plus on accepte l'alcool. Ça c'est culturel, mais il y a aussi notre réaction à l'alcool selon notre ADN. Selon qu'on est chinois ou américain, oui, on ne réagira pas de la même façon à cause de l'ADN.
C'est tout à fait surprenant, oui, effectivement, la tolérance à l'alcool. Figurez-vous que les premiers humains, semble-t-il, qui ont commencé à goûter l'alcool, il y a à peu près 9000 ans en néolithique, c'est bien en Chine. Pourquoi ? Parce qu'ils stockaient le riz dans des grandes jattes, des jattes de grande taille, en terre cuite, et à la fin, il y a un peu d'humidité dans le bas de la jatte qui entraînait une fermentation et ça produisait de l'alcool. Et quand ils ont commencé à goûter cet alcool, l'être humain n'avait jamais été en contact avec l'alcool. Donc ils ont sélectionné des variants qui leur permettaient de résister à l'alcool.
Ce que vous appelez des variants, on va expliquer ce que c'est
des variations génétiques. C'est un changement du message génétique, voilà une lettre changée par une autre dans un gène qui va changer le fonctionnement du gène. Et en fait, à ce moment-là, ça a joué sur un enzyme qui détruit l'alcool en acétaldéhyde. Et cette enzyme est devenue plus efficace, donc il produisait plus d'acétaldéhyde, beaucoup plus d'acétaldéhyde. Or, le problème, c'est que l'acétaldéhyde, ça entraîne un malaise. Ça entraîne une dilatation des vaisseaux sanguins, notamment au niveau du visage. Ils deviennent rouges, ce qu'on appelle le syndrome du rougissement asiatique. Donc le but, c'était de les protéger contre l'alcool. Et ce variant, eh bien, il s'est réparti essentiellement en Asie, alors que les autres populations du monde ne l'ont pas. Alors ce qui est intéressant, c'est pourquoi là et pas ailleurs. En fait, c'est que l'acétaldéhyde a été sélectionné dans ces populations à cette époque parce que, pour une raison qu'on connaît mal, il permettait de mieux résister aux amibes, c'est-à-dire espèces de bestioles qui donnent des maladies intestinales. Donc voilà, on a les deux aspects de l'effet d'un variant génétique. Un effet favorable au début, c'est pour ça qu'il a été sélectionné. On lutte contre une maladie intestinale. Mais là, et puis à défaut, on ne supporte pas l'alcool.
Un deuxième effet.
Et le goût de la truffe ou la digestion du lait, ça aussi c'est assez drôle.
Alors, on peut d'abord parler du goût de la truffe, effectivement très amusant. C'est une variation dans un gène d'un récepteur de l'odeur de la truffe qui est liée à une hormone mâle qui est libérée par le cochon mâle pour attirer la femelle. Et la même molécule est fabriquée par ce fameux champignon au goût un peu curieux. Et au moment du néolithique, lorsque le pastoralisme, l'élevage s'est développé, eh bien, bon, les humains de l'époque élevaient beaucoup de cochons et à force d'avoir cette odeur un peu repoussante, hein, qui sent l'urine de cochon, il y a un variant génétique qui est apparu pour rendre les humains moins sensibles à cette odeur. Et donc ce variant s'est réparti, c'est très étonnant. Alors ceux qui adorent la truffe trouvent que ça, la truffe a un goût de fleur, et puis d'autres donc qui n'ont pas subi cette variation, qui sont beaucoup plus sensibles à cette odeur, trouvent que ça sent l'urine de cochon.
Dans cette galerie, on va évoquer un autre exemple, après on parlera d'autres choses. La frilosité, par exemple. En quoi l'ADN a été capital pour la frilosité, selon les régions du monde, ou selon quoi d'ailleurs ?
Ah oui, c'est vraiment selon la latitude, parce que la frilosité, finalement, ça provoque un risque de décès. On sait très bien qu'en haute montagne, s'il fait très froid et qu'on reste longtemps en froid, on peut décéder. Et donc, lors du dernier âge glaciaire, il y a un variant génétique qui est apparu pour rendre l'homme plus sensible donc à la perception du froid. Oui. Et là, c'est très amusant. C'est le gène TRPM8, que moi j'appelle le gène de l'effet Kiss Cool, parce qu'en fait, le récepteur qui permet de détecter l'air froid ou l'eau froide est mimé par l'action du menthol. Quand vous prenez une petite dragée de menthol, même si la dragée est à 30 degrés, dans votre bouche, vous avez cette impression de fraîcheur. Donc ça active ce récepteur TRPM8. Et il existe une variation dans ce gène qui fait que les gens sont plus sensibles au menthol et donc sont plus frileux.
Il y a Monsieur Gène et Madame Gène, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes sur le plan
génétique ? Alors, il peut y avoir des différences, mais bon, on va peut-être pas entrer dans le détail
c'est trop compliqué.
C'est peut-être un peu compliqué. D'accord. On peut revenir à la digestion du lait.
Oui. Hein.
50% des Français sont intolérants au lactose, parce qu'en fait, dans le lait, on a le lactose, ce sucre, qui doit être coupé en deux, effectivement, pour être correctement absorbé dans l'intestin. Alors là, ça vient aussi de l'élevage au néolithique, dans plusieurs endroits du monde. Finalement, l'homme avait découvert que c'était pratique d'avoir une source de protéines. Hein, il suffit de se balader avec ses bêtes, avec ses chameaux, ses chèvres. Et puis, on a une source alimentaire en permanence en mangeant le lait de ces animaux. Et donc, comme a priori, chez l'homme, naturellement, la digestion du lait ne marche que jusqu'au sevrage, hein, à peu près 2 ans, eh bien, il y a un variant génétique qui est apparu pour rendre ce gène actif toute la vie. Et donc, les humains étaient capables de digérer le lait toute la vie. Alors, tout le monde n'a pas acquis ce variant sélectionné, mais en France, c'est à peu près la moitié.
Alors aujourd'hui, comme chez Sapiens, notre ADN, il évolue tout au long de notre vie, selon notre environnement. Et donc, aujourd'hui, selon quels critères très modernes ? Selon l'alimentation, ça va faire évoluer notre ADN ?
Alors ça c'est intéressant. On sait qu'il y a une pression de la culture, de nos habitudes sur la sélection des gènes. On peut en prendre un bon exemple avec, je dirais, l'homogénéité de l'alimentation actuelle. Dans le monde, vous n'avez pas beaucoup de céréales qui sont consommées par rapport à ce qui se passait au paléolithique.
Ou en tout cas, elles sont consommées de façon conditionnée aujourd'hui.
Voilà. Oui. Hein, on a essentiellement le blé, on a le riz, on a le maïs.
Mais le fait qu'elle soit je fais une parenthèse, oui. Le fait que les céréales soient très conditionnées aujourd'hui, ça influence notre capital génétique, donc notre ADN.
Ben ça, on ne sait pas, parce que pour voir apparaître un variant génétique, il faudrait au moins 1000 ans. Mais ce qu'on sait, c'est que à force d'être en contact avec l'amidon des céréales, l'intestin a développé une espèce de réponse. Oh, j'en ai marre de voir toujours l'amidon qui arrive dans les cellules intestinales. Donc, il développe une espèce de réflexe de défense en disant j'aimerais bien manger autre chose, et ça explique en partie l'intolérance au gluten.
Gluten, donc c'est pas seulement une mode.
C'est devenu une mode, mais il y a des faits réels d'intolérance au gluten.
C'est une protéine, ouais. Et comme elle est permanente dans énormément de féculents, l'organisme se dit j'en ai marre d'avoir toujours cette protéine face à moi, je développe une réaction un peu de défense, une réaction immunitaire, d'où cette fameuse intolérance au gluten.
D'ailleurs, vous écrivez dans votre livre que dans un avenir proche, vous nous direz ce que signifie le proche quand on regarde l'ADN,
10 000 ans.
Dans un avenir proche, les variations génétiques vont favoriser l'arrivée de nouvelles maladies. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Oui, très probablement parce que finalement la longévité augmente, l'espérance de vie augmente parce que on lutte contre des maladies qu'on connaît actuellement qui démarrent vers l'âge de 50 ans, c'est-à-dire le cancer, puis un peu plus tard les maladies neurodégénératives, etc. Et finalement, quand on regarde la maladie d'Alzheimer, la prévalence, c'est-à-dire le risque de voir apparaître cette maladie dans la population, démarre vraiment à 65-70 ans. Alors, il est probable que si la longévité augmente encore, on verra apparaître peut-être d'autres maladies. Et puis, il y a d'autres conséquences liées au surpoids, liées à la sédentarité, etc. Donc, peut-être qu'à terme, on n'en sait rien, on n'est pas des devins non plus, hein, nous les biologistes, peut-être qu'on verra apparaître une sélection d'autres variants qui sont inconnus jusqu'à l'heure
Mais
actuelle.
Mais est-ce que les gènes peuvent influencer la psychologie ?
Alors, on en parle un peu, là c'est beaucoup plus compliqué. Il faut bien se rendre compte que les gènes influence de façon très variable un trait morphologique, un trait psychologique ou autre chose. On peut prendre juste 2 exemples. L'exemple le plus typique où il y a une seule lettre dans le message génétique qui change tout, c'est le variant qui a fait apparaître les yeux clairs, c'est-à-dire les yeux bleus en gros par rapport aux yeux marrons. Là, une seule lettre, ça contribue quasiment à 100% à cette différence de votre allure. Et puis après, vous parlez de la psychologie, on pourrait parler de la taille humaine, où là, on a trouvé des variants dans des centaines de gènes, et chaque variant contribue pour un tout petit peu. Donc c'est extrêmement difficile. Les chercheurs continuent à travailler là-dessus. Récemment, il y a un chercheur qui a démontré que chez ceux qui avaient un QI supérieur à 140, on trouvait un variant qui modifiait le QI d'un demi-point. Hein, vous voyez, si vous prenez quelqu'un qui est extrêmement rapide dans des jeux de logique, qui a un QI à 140 et l'autre qui a un QI à 140,5, chouette, on a trouvé avait un variant génétique qui contribuait à la différence entre les deux. Évidemment, de loin, on n'explique pas tout.
Je voudrais revenir aux maladies et aux virus. Sapiens a profité de plusieurs maladies infectieuses pour muter et donc modifier son ADN. Aujourd'hui, le coronavirus, par exemple, s'il devait traverser les prochaines générations sous une forme ou sous une autre, d'ailleurs, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à modifier notre ADN ?
Alors, ce qui peut, je suis pas spécialiste de la question. Ce qui est possible, c'est que le fameux récepteur ACE2 qui est la porte d'entrée du virus. C'est possible qu'après plusieurs infections pluriannuelles, etc., ce récepteur mute un peu. Ce qui fait qu'à ce moment-là, le virus aura plus de mal à rentrer par cette porte-là. Mais il pourrait peut-être en trouver une autre s'il est suffisamment malin.
Un mot sur une idée reçue, et on en parlait à l'instant avec Patricia. Aujourd'hui, nous ne sommes pas déterminés à 100% par notre patrimoine génétique. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'ADN.
Non, il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'ADN. J'ai une analogie qui est assez amusante pour expliquer ça. La génétique influence autant quasiment que l'environnement. Vous prenez un rectangle. Vous dites là, je multiplie la longueur par la largeur, j'obtiens la surface. Est-ce que c'est la largeur ou est-ce que c'est la longueur qui contribue le plus à la surface? Donc on peut prendre un autre exemple avec l'obésité. Il y a des gènes de l'obésité.
Pendant il y a les facteurs naturels, environnementaux, culturels.
Un facteur génétique. Non, un facteur génétique de l'obésité. Il y a des gènes connus. Pendant les grandes guerres, il n'y a jamais eu si peu d'obèses parce que les gens étaient malnutris. Donc il faut la contribution des deux, évidemment, pour obtenir soit ces maladies, soit ces traits qu'on observe.
Qu'est-ce qui ne dépend pas de l'ADN? Le mental? L'amour?
C'est un peu vrai, c'est-à-dire que...
Donnez-lui une réponse, je vous en supplie, même si
moi,
c'est approximatif.
Le fonctionnement du cerveau global.
Oui.
Parce qu'on a 20 000 gènes, on a 3 milliards de lettres dans le génome, on a des milliers de milliards de connexions nerveuses dans le cerveau. Donc si on prétendait qu'un gène détermine une connexion nerveuse, on aurait tout faux. Donc dans le cerveau, l'environnement joue un rôle considérable.
Qu'est-ce qu'il reste encore à découvrir de l'ADN et vous y travaillez ?
Plein de choses. On connaît plus de 100 millions de ces différences d'une seule lettre dans cette bibliothèque énorme qu'est l'ADN qui en contient 3 milliards. Là, j'en parle dans le livre d'environ 150. Il y en a peut-être à peu près 500 ou 600 qui sont bien connus. Alors vous imaginez le travail qui reste à faire.
Ma dernière question, c'est cet ADN qui se reproduit. On a dit tout à l'heure qu'il pouvait s'abîmer au moment de se reproduire, que la copie n'était pas toujours parfaite. Ça diminue, ça, notre espérance de vie, par exemple ?
Ah, bien sûr, oui. On connaît maintenant, c'est très actuel, l'effet de la pollution. La pollution atmosphérique augmente le risque mutagène, augmente le risque d'acquérir des mutations dans nos cellules. Heureusement pour nous, ces mutations se concentrent pas ou n'arrivent pas forcément au niveau de nos gamètes, de nos ovules et de nos spermatozoïdes, mais néanmoins, c'est un risque, ça augmente bien sûr le risque mutagène.
Eh bien, merci Bernard Sablonnière. On lira ça dans votre livre avec pas mal d'exemples qui sont autant de façons de raconter la science de façon assez directe, assez ludique d'ailleurs, dans votre livre ADN, histoire de nos différences, signé du professeur Bernard Sablonnière. Le livre est paru chez Odile Jacob et de la collection Science, évidemment. Merci beaucoup professeur Sablonnière d'être venu nous éclairer ce matin sur France Inter et bonne journée.